Suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Un Écho d'ici, Écho d'ailleurs un peu particulier puisqu'aujourd'hui nous allons feuilleter un livre. Ce livre s'intitule Tous rentiers, il a un sous-titre pour une autre répartition des richesses. Ce livre est publié aux éditions Odile Jacob et son auteur est avec nous. Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Philippe Askenazy, vous êtes directeur de recherche au CNRS dans le cadre de l'École d'économie de Paris. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, Les décennies aveugles, 1970-2010 par exemple, publié aux éditions du Seuil, ou encore Le manifeste des économistes atterrés aux éditions Les liens qui libèrent, et vous vous présentez comme un économiste du travail. Sur quoi portent vos recherches, Philippe Askenazy ?
Alors, j'ai essentiellement deux versants dans mes recherches. La première est un versant pluridisciplinaire où je travaille avec des ergonomes, des psychologues du travail, des sociologues du travail et où on va sur le terrain, en fait, voir comment se forgent les tâches, les relations sociales. Donc ça, c'est un premier aspect de mes recherches. Puis un autre aspect qui est nettement plus mainstream, en quelque sorte, pour pour prendre un terme d'économiste, où j'aborde les interactions entre le fonctionnement du marché du travail, les innovations des entreprises. Et donc, ça va sur des problématiques de productivité, de croissance. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans mon ouvrage, c'est de marier ces deux types d'approches pour avoir une vision relativement globale des fonctionnements des économies capitalistes aujourd'hui.
Justement, quel est le lien entre le travail et le rentier qui est au cœur de votre titre, en tout cas ?
Oui, alors ça peut paraître paradoxal, et c'était voulu, hein,
cette terminologie.
C'est à la fois une provocation, cette terminologie.
Il faut dire qu'il y a un point d'exclamation à tous rentiers.
Oui, il y a un point d'exclamation, il y a d'ailleurs un sous-titre qui est pour une autre répartition des richesses, mais il faut avoir en tête qu'une partie des économistes, notamment ceux qui prônent une flexibilisation des marchés du travail, emploient souvent le terme de rente ouvrière ou de rente des employés parce que ils obtiendraient du fait de mouvements syndicaux ou de mobilisation une part supplémentaire de revenus. Donc ce terme de rente, il est employé à la fois par les libéraux, il est aussi employé dans une littérature qui s'interroge cette fois-ci plus sur les capacités, par exemple, de monopole pour obtenir des rente sur les consommateurs ou même d'écraser une partie du monde du travail parce que ce sont eux qui fournissent l'emploi. Et finalement, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est qu'une grande partie des débats économiques se font autour de la question de la rente et à travers l'idée de tous rentiers. J'affirme que on est dans un monde où il n'y a pas une répartition naturelle des revenus, notamment des revenus primaires, et qu'on est plutôt dans une bataille permanente pour obtenir des rentes. Et dans cette bataille-là, il y a eu, dans les dernières décennies, des grands perdants, des grands gagnants.
On verra ça dans le cours de l'émission.
Voilà, et que donc ce tous rentier, c'est que finalement, tout le monde doit être gagnant dans le monde d'aujourd'hui.
Vous êtes ici sur les antennes d'RFI, vous savez qu'on s'adresse beaucoup à des auditeurs africains. Et en Afrique, quand on parle de rente, on pense souvent à une culture de rente. On pense à la production de cacao, à la production de café. Vous êtes très loin de cet univers-là.
Oui, alors effectivement, il n'y a pas de doute. Mon ouvrage est essentiellement sur une problématique des pays de l'OCDE. Je n'emploierai pas nécessairement le terme de pays développés. Mais d'une certaine manière, ce que l'on constate aujourd'hui, dans nos économies, c'est une grande partie du demain des pays émergents. On voit bien, j'ai toute une partie de raisonnement sur la question de la rente foncière, donc vous en parlez sur les aspects agricoles, mais on voit bien que l'urbanisation est galopante dans les pays émergents, et notamment en Afrique, et donc il y a une problématique de la rente foncière urbaine que l'on trouve dans les pays dits développés et que l'on voit de plus en plus dans les pays émergents. Et puis, la question des nouvelle technologie est essentielle aussi dans les pays émergents. On voit la téléphonie mobile partout à travers le monde.
On y reviendra, mais laissez-moi vous dire qu'au cours de cette émission, nous allons entendre trois reportages qui illustre d'une manière ou d'une autre votre propos. Dans quelques minutes, nous retrouverons Pauline Glaize qui a suivi cette semaine la contestation de la loi travail dans les rues de Paris. Puis dans la deuxième partie de cette émission, nous retrouverons Muriel Delcroix à Londres. Elle nous dira que l'aristocratie britannique possède toujours le centre de Londres. Et nous irons enfin à Los Angeles, dans le downtown de Los Angeles, où riches et miséreux se côtoient de manière saisissante. Philippe Askenazy, de manière peut-être un peu paradoxale, je ne voudrais pas commencer par le début de votre livre, mais par la fin. Ça permettra peut-être de délimiter le cadre idéologique dans lequel vous réfléchissez. Vous décrivez un monde, et plus particulièrement une Europe, en proie à un capitalisme que vous qualifiez d'hypocrite, et une social-démocratie qui succombe au pragmatisme. Une social-démocratie, dites-vous, qui accepte une course au désarmement du travail. Est-ce qu'on pourrait d'abord définir chacun de ces termes? Pourquoi le capitalisme est-il aujourd'hui hypocrite ?
Le capitalisme est en grande partie hypocrite parce qu'il prétend assurer une forme de libre marché. On parle d'égalité des chances, c'est-à-dire en gros, vous naissez et puis vous allez avoir l'éducation. Et puis le capitalisme, le libre marché va vous permettre d'être votre propre entrepreneur, de créer votre trajectoire et que finalement, ce seraient les plus méritants qui seraient au bout du bout gagnants. Et donc là, je pense qu'il y a une hypocrisie fondamentale qui est que ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est essentiellement le lieu où vous êtes né, la famille dans laquelle vous êtes né, le capital social de cette famille, son capital culturel et son capital économique qui détermine votre trajectoire de vie. Et on est très loin d'une situation d'une économie de liberté. On est plutôt dans un monde où on a de plus en plus des grands monopoles. On le voit avec les multinationales qui irriguent sur l'ensemble des continents. Ce sont ces grandes entreprises et des grandes familles aussi capitalistes qui aujourd'hui dominent à travers le monde. Donc ça, c'est sur la problématique du capitalisme. Alors sur la question du pragmatisme.
Oui, sur la social-démocratie qui désarme le travail. Oui. Comment est-ce qu'on peut désarmer le travail ?
Oui, alors ça peut paraître étonnant, mais si vous voulez, il y a eu, je pense, déjà un premier grand basculement qui est la chute du mur de Berlin. Et je pense que sur ce plan-là, on le sous-estime de manière massive. C'est-à-dire qu'on était dans une situation...
Que c'était en 1989.
En 1989, ben, il n'y a pas si longtemps que cela, finalement, c'est un petit peu plus d'un quart de siècle. Et même si on avait eu l'arrivée de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan au début
Alors,
des années...
Margaret Thatcher,
au début des années
britanniques,
Ronald Reagan, président des États-Unis au début des années 1980, enfin au tournant des années 1980, puisque Margaret Thatcher, c'était 1979, donc avec une nouvelle idéologie néolibérale, c'est plutôt une alliance entre des purs libéraux et des purs conservateurs. Le tournant, quand même, c'est 1989, avec la chute du mur de Berlin, qui, je parle dans l'ouvrage, d'un affranchissement du capital. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, cette forme de menace du bloc soviétique faisait qu'il était obligé d'accepter, d'offrir une image correct. Et donc, on devait offrir quand même un certain nombre de contreparties au monde du travail.
Les grandes conventions. Le désarmement.
Alors, donc ça, c'était, on a eu une phase en quelque sorte, paradoxalement, vous voyez, il y en avait un armement du bloc de l'Ouest par rapport au bloc soviétique qui était un armement strictement militaire.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec le travail.
Et on avait un armement qui était en partie idéologique puisque on cherchait, donc par exemple, les grandes conventions internationales du Bureau international du travail ont été signées pendant la période de la guerre froide pour dire aux travailleurs, regardez, vous n'avez pas besoin de vous tourner vers le monde soviétique, nous vous garantissons des droits sociaux chez vous, pays de l'Ouest. Et donc, c'est avec la chute du mur de Berlin, on s'aperçoit qu'il n'y a eu plus du tout d'accord signé au niveau du Bureau international du travail, et même une volonté de revenir sur un certain nombre de ces accords. Et donc, on avait, si vous voulez, armé le travail pour faire contrepoids au bloc soviétique. Avec la disparition de ce bloc soviétique, la transition de la Chine vers une économie de marché, on est dans un nouveau monde où, cette fois-ci, le capital peut, pied à pied, désarmer le travail. Alors, qu'est-ce que c'est que désarmer le travail aujourd'hui ? Eh bien, c'est faire reculer les capacités de mobilisation collective des travailleurs. On a vu partout une désyndicalisation qui a été en grande partie construite par les entreprises. C'est assez, finalement, assez facile de faire en sorte que un lieu soit moins syndicalisé. On va pousser de plus en plus à avoir une part de la main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre de court terme, et donc évidemment vous avez pires difficultés pour créer des organisations syndicales sur un monde où ça tourne de manière régulière. On utilise aussi des cascades, c'est-à-dire vous allez utiliser des sous-traitants, donc même s'il s'agit de revendiquer, vers qui vous allez revendiquer? Vers votre employeur direct, mais qui lui-même dit je suis un sous-traitant d'un sous-traitant par rapport à un grand donneur
d'ordre. Plutôt que désarmement, on pourrait pas parler de morcellement du travail?
Alors, il y a à la fois, donc, une stratégie, effectivement, strictement de morcellement, et puis, donc, il y a quand même une volonté de désarmement du pouvoir individuel et du pouvoir collectif, et qui, là, se retrouve à travers le développement de toute une série de législations du travail. Et je dirais que ce qui se passe aujourd'hui en France
la loi El Khomri,
participe de cette logique-là.
La loi El Khomri participe de la logique de désarmement du travail.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est en ça, si vous voulez, que d'une certaine manière, si vous lisez mon ouvrage, je m'adresse aux auditeurs, pas à vous. Je dirais que malheureusement, ce que l'on voit avec la loi El Khomri, c'était ce que j'anticipais au sein de mon ouvrage, c'est-à-dire une situation où la social-démocratie, face aux crises économiques, se sent obligée d'accepter une situation où il y aurait un espoir à une solution du chômage de masse à travers encore plus fragiliser le travail, avantager le monde de l'entreprise et surtout des grandes entreprises. C'est ça qu'il y a de frappant dans la loi El Khomri. C'est surtout les grands groupes qui sont les grands gagnants de ce système-là. Et c'est une forme de course en avant dans laquelle s'est lancée la social-démocratie et qui, à la fois, tue la social-démocratie, mais qui est aussi en germe des crises que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est pas à travers cette stratégie-là qu'on sortira l'Europe et donc globalement le monde des crises présentes.
Alors Philippe Askenazy, la loi El Khomri a d'abord mobilisé les états-majors politiques et syndicaux, et puis il y a eu grève et manifestation dans la rue. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Paul Inglès et Manu Pochers.
Non au retour à Germinal, le slogan qui fait référence à la souffrance ouvrière au 19e siècle s'affiche sur les poitrines des manifestants et retentit dans le brouhaha du cortège. Christian Bellois du syndicat solidaire partage cette angoisse de voir les droits des travailleurs régresser.
L'arrêt des 35 heures, voire même des 40 heures, c'est le travail des apprentis aussi jusqu'à 40 heures alors qu'avant ils étaient protégés. C'est un certain nombre de mesures comme ça qui nous font venir au 19e siècle. C'est aussi l'inversion des normes, c'est-à-dire que maintenant des accords locaux pourront déroger en baisse au code du travail et aux conventions collectives, ce qui veut dire que dans les boîtes où il y aura des syndicats qui seront combatifs, il y aura des accords à peu près corrects et les autres, ça sera le retour au 19e siècle, quoi.
Une position tempérée un peu plus loin par Carlos Lopez de la FSU, mais il anticipe de nouveaux coups durs.
Derrière, le débat, c'est qu'à partir du moment où on remet en cause le Code du travail, les autres textes de loi et droits sociaux, notamment la fonction publique, sont en ligne de mire.
Donc vous avez peur que ça aille encore plus loin?
Normalement, si ça passe, ça ira plus loin. Ça ne peut pas s'arrêter.
Et pour nombre de détracteurs de la loi travail, cette pente n'est pas nouvelle. Ils évoquent parfois avec rancœur la loi Macron pour la croissance. Bastien Faudeau, porte-parole du mouvement républicain et citoyen, situe lui le début du mouvement bien avant le quinquennat de François Hollande.
Le projet de loi sur le travail est d'une certaine manière la consécration d'un mouvement politique qui a commencé depuis plus de 20 ans dans ce pays. En réalité, depuis plus de 30 ans, depuis 1983, et qui a pour conséquence la dérive libérale de la gauche, qui a commencé avec le tournant de la rigueur lors du premier septennat de François Mitterrand en 1983. Et je pense que ce projet de loi est d'une certaine manière la consécration de ce mouvement.
Pour celui qui se présente comme candidat à la présidentielle 2017, la solution passe par une restauration de la souveraineté nationale.
Faute de disposer d'un outil monétaire, en l'occurrence une monnaie nationale, faute de disposer de la capacité pour nos parlementaires de voter le budget sans le contrôle de Bruxelles, les gouvernements sont aujourd'hui contraints, d'une certaine manière, de mettre en œuvre la compétitivité par la restriction des conditions de travail.
Mais bien plus que l'Europe, ce sont les patrons qui sont pointés du doigt dans la foule des manifestants. Des patrons qui, à leurs yeux, sont bien trop écoutés par le gouvernement.
Hollande, Macron, Payens sont des patrons.
Alors, c'était un reportage signé Pauline Glaise et Manu Pochez. Philippe Askenazy, on retrouve certains de vos thèmes dans ce reportage.
Tout à fait. Oui.
Mais il y en a un que vous n'avez pas évoqué. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que disaient ces manifestants, c'est le retour au 19e siècle.
Oui, je ne pense pas. Enfin, de toute manière,
on va pas renvoyer les enfants du 8 ans dans les mines.
Non. Je ne crois pas. Et puis, de toute manière, l'économie que l'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec celle du 19e siècle. Et les populations elles-mêmes sont différentes. C'est-à-dire que on a un monde du travail qui est largement plus diplômé, qualifié que ce qu'il était au 19e siècle. Et donc, ça change quand même la donne. C'est-à-dire que vous avez donc des métiers, des tâches qui sont différentes. Vous avez des rapports sociaux qui peuvent être différents. En revanche, là où on revient en quelque sorte au 19e siècle, c'est effectivement le poids politique qu'a le grand capital dans les décisions publiques à travers le monde. Et je crois que sur ce plan-là, il y a une certaine proximité avec cette période qui a vu naître, en fait, les mouvements syndicaux, en quelque sorte, en réponse à cette domination. Et il faut quand même se souvenir, on avait, lors du 19e siècle, l'État cherchait à mater des grèves, on tirait même sur les ouvriers. On n'est quand même pas dans cette période là aujourd'hui.
On l'a fait il n'y a pas si longtemps en France, enfin il y a quelques décennies encore.
Oui, mais vous voyez, on est quand même, enfin, je suis quelqu'un d'optimiste. Je crois que on n'est pas toujours dans une situation de retour aux périodes les plus sombres, mais justement il faut d'une certaine manière lutter, se mobiliser, moi de mon côté plutôt du domaine des idées, des éléments de diagnostic pour que les sociétés continuent à avancer.
Alors cette jeunesse française dont on nous dit qu'elle se lève contre cette loi El Khomri, elle s'est souvent habituée à la précarité, au stage, au contrat de courte durée. Et il y a par ailleurs ceux qui sont diplômés, qui sont dans la vie active, dans l'économie de consommation, et ceux qui sont dehors. Mais vous réfutez cette vision des choses, cette vision de ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, les insiders et les outsiders.
Oui, je vous parlais de jeunesse française. Je pense que c'est une problématique de l'ensemble de la jeunesse mondiale et notamment dans les pays dits de l'OCDE. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, par exemple, la jeunesse américaine comme la jeunesse britannique qui se tourne vers des candidats dits socialistes en quelque sorte. Et donc il y a un malaise global
Corbyn en Grande-Bretagne et Sanders aux États-Unis.
Donc Corbyn qui est arrivé à la tête du Labour, le parti travailliste britannique. Je ne suis pas sûr que Sanders soit le candidat des démocrates aux États-Unis au bout du compte. Mais en tout cas, il y a un mouvement nouveau. Et alors, derrière cela, je pense qu'il y a une compréhension de la jeunesse que finalement, ce discours effectivement, insider, outsider. Alors, c'est une terminologie qui est née dans les années 1980, qui s'est imposée parmi les économistes et qu'on retrouve dans le débat public, qui serait une société en quelque sorte divisée en deux. Des personnes qui sont donc les insiders, ceux qui arrivent à se protéger
et dans les différents pays. Philippe Askenazy, parce qu'on arrive à la fin de la première partie.
Donc ces insiders, donc ces personnes qui se protègent, donc on va mettre les fonctionnaires, ceux qui sont dans des contrats à durée indéterminée, et puis d'un autre côté ceux qui seraient dans la précarité ou le chômage. Et donc on a construit un discours d'opposition des deux en disant que finalement ce sont ces personnes qui se protègent qui mettraient les autres en difficulté. Et c'est une construction idéologique extraordinaire, puisque à partir de là, on fait disparaître l'entreprise, on fait disparaître le capital, qui est en quelque sorte un acteur totalement neutre, et qui fait une opposition politique entre deux groupes sociaux. Et c'est ça que je dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, l'un comme l'autre se retrouve dans le même bateau d'une économie capitaliste dominée par la rente et par des grands gagnants. Et c'est sur ces grands gagnants, ces grands rentiers, que j'ai cherché à concentrer mon ouvrage et que je pense que vous allez mettre en évidence dans la seconde partie.
Voilà, alors on y revient dans la deuxième partie de cette émission, dans quelques minutes, après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Appelez-nous, exprès. Allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à un livre et à son auteur. Le livre, c'est Tous rentiers aux éditions Odile Jacob. Et son auteur, c'est Philippe Askenazy. Philippe Askenazy, vous êtes directeur de recherche au CNRS dans le cadre de l'École d'économie de Paris, professeur à Normale Sup, l'École normale supérieure, auteur de nombreux ouvrages, dont Les décennies aveugles 1970-2010, publié aux éditions du Seuil, ou encore Le manifeste des économistes atterrés, qui fédère un grand nombre d'économistes français aujourd'hui. Au cours de la première partie de cette émission, Philippe Askenazy, nous avons surtout parlé de la France, du débat sur la loi travail et de ce que ce débat dit de l'économie française et plus généralement des économies développées. Nous avons aussi vu ce que signifiait le mot rentier selon vous. Mais il y a un autre mot qui m'a frappé dans votre livre, un autre phénomène majeur qui traverse, me semble-t-il, votre texte, c'est le mot un peu barbare de propriétarisme. Qu'est-ce que c'est que ça que le propriétarisme ?
Oui, alors si vous voulez, je pense que c'est un des éléments qui, personnellement, m'a le plus frappé lorsque je me suis mis à écrire l'ouvrage. Rassemblant diverses littératures, différentes approches économiques ou de sciences politiques, j'ai abouti à cette question, à trouver une terminologie qui rassemble un certain nombre d'approches autour donc de cette idée propriétarisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Le propriétarisme, il a essentiellement deux faces. Il y a ce que j'appelle le tout propriété et le tous propriétaire. Alors qu'est-ce que c'est que le tout propriété ? C'est une situation où domine dans les fonctionnements économiques la propriété. On le voit à la fois sur une propriété très ancienne et classique qui est la propriété foncière. On avait cru que l'on était dans un monde, avec les technologies de l'information et de la communication, un monde où en quelque sorte le capital s'évaporait, que ce serait la connaissance qui serait le point essentiel, et que l'espace lui-même disparaîtrait. C'est-à-dire que vous pourriez travailler à 500 kilomètres d'un collègue, échanger par Internet. Donc, à la fois l'espace physique et le capital disparaîtraient. Et donc, c'est pas du tout ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une situation où on a les connaissances qui sont effectivement centrales, mais qui sont devenues propriétaires. Alors, pour préciser, il y a encore une quarantaine d'années, toute une série de pans du savoir, des connaissances, n'étaient pas protégés par le droit. Et ça s'est construit progressivement, c'est-à-dire que les grands capitalistes ont compris qu'il fallait, pour qu'ils maintiennent leur position, que le droit soit modifié. Et donc, par exemple, la propriété sur les bases de données, on parle beaucoup du big data qui fait la richesse des grands groupes internationaux aujourd'hui, eh bien, cette propriété n'a qu'une vingtaine d'années. Auparavant, il n'y avait pas de protection légale, notamment en Europe, des grandes bases de données. C'est le cas aujourd'hui, et c'est ça, donc, à nouveau, qui fait la fortune des Facebook ou des Google. Et donc, il y a une extension du domaine de la propriété. On le voit aussi sur la question du vivant et qui pose des problèmes majeurs, notamment dans les pays émergents, sur le domaine agricole. On voit bien que des semences sont propriétaires de telle ou telle grande multinationale.
Propriété.
Sont propriétés de ces géants. On brevette le génome. Donc, on a étendu le domaine de la propriété. Donc, ça, c'est un premier aspect.
Oui, ça, c'est le tout propriété, mais où est le tous propriétaire ?
Alors donc,
parce que c'est un peu contradictoire, si tout est propriété de quelques-uns, comment sommes-nous tous propriétaires ?
Alors on est en même temps tous propriétaires, parce que, notamment sur la question foncière, on se retrouve avec des grands propriétaires fonciers, là aussi à travers le monde, mais d'une certaine manière, pour protéger cette propriété, pour éviter qu'elle soit taxée, il y a eu volontairement un développement du tous propriétaire. Et donc c'est très très net, par exemple, dans le cas des politiques britannique, on parlait de Margaret Thatcher tout à l'heure, elle a fait en sorte que les citoyens britanniques soient très majoritairement propriétaires de leur logement. Donc, notamment, il y avait des politiques où on pouvait racheter son logement social. Et ça se voit dans d'autres pays. Et donc, globalement, dans les pays développés, mais ça se voit aussi dans des pays émergents, par exemple en Tunisie, la société est essentiellement composée de petits propriétaires. Et ces petits propriétaires, eh bien, c'est un socle pour le conservatisme. Parce que dès que l'on dit que l'on veut taxer les grands propriétaires, ils savent dire, bah attention, on va, attention, les suivants, ça va être vous, les petits propriétaires, ceux qui avaient une propriété qui est le fruit de votre vie, on va vous taxer. Et donc, ce tous propriétaires est en fait très dangereux démocratiquement, parce que c'est un levier puissant pour les conservateurs pour conserver leur position en faisant peur aux petits propriétaires.
Dans votre livre, vous évoquez longuement le cas de la ville de Londres.
Oui, alors la ville de Londres est un exemple très intéressant. Alors non seulement parce que c'est une des grandes villes monde, dans les différents classements internationaux, c'est la première, deuxième ou troisième.
Une ville monde, c'est quoi ?
Alors les villes monde, ce sont des villes qui ont tous les atouts en quelque sorte de l'économie moderne, au sens que elles sont très avancées d'un point de vue technologique, ont un haut niveau d'éducation des populations, et sont très ouvertes à la fois aux entreprises et aux populations, dans le sens que vous avez plus d'une centaine de nationalités présentes et une capacité d'offrir tous les services possibles pour une entreprise ou pour vous, consommateurs. Donc vous arrivez à attirer des élites parce que elles ont des biens culturels, elles ont les bonnes écoles, et vous allez attirer les entreprises parce que il y a en fait les marchés internationaux qui s'ouvrent à vous et tous les services possibles. Et donc, Londres est un cas particulier de ce phénomène d'agrégation des activités économiques. Je vous parlais tout à l'heure de l'urbanisation de l'Afrique, c'est aussi ces mouvements-là. On voit, alors même qu'on n'est pas du tout donc sur cette situation de terre plate, mais au contraire de convergence des activités sur des lieux spécifiques. Et le cas de Londres est très particulier parce que il n'y a pas eu de révolution comme en France. Et donc, on se retrouve avec des propriétaires aristocratiques qui avaient des champs. Et avec l'extension de Londres, eh bien, ces champs sont devenus des zones centrales. Et on se retrouve avec des familles qui étaient propriétaires depuis plusieurs siècles et qui, aujourd'hui, ont une rente, et peut-être c'est ce que va montrer votre reportage.
Absolument, puisque nous allons à Londres, on va aller voir sur le terrain ce qui se passe dans ces quartiers londoniens dont vous venez de nous parler, Philippe Askenazy. Le cœur de la ville appartient effectivement toujours à une poignée d'aristocrates, et depuis quelques décennies, de plus en plus à des sociétés ou à des milliardaires étrangers, avec des implications bien particulières pour les habitants de la ville de Londres. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Muriel Delcroix.
En sortant de la station Piccadilly, le promeneur qui s'engage dans Regent Street est en fait dans une des propriétés de la famille royale. En flânant dans Mayfair ou Belgravia, le voilà chez les Grosvenor, ducs de Westminster. Et s'il décide de visiter la galerie d'art Saatchi à Chelsea, c'est sur les terres du baron de Cadogan. Londres est un vaste monopoly concentré entre les mains de vieilles familles aristocratiques. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez la réponse pince sans rire de Peter Murray, le président de la New London Architecture.
En réalité, tout ça, c'est de la faute des Français. Quand Guillaume le Conquérant a envahi l'Angleterre en 1066, il a confisqué toutes les terres, puis il les a données aux nobles, car il voulait être sûr de conserver leur soutien.
Avec l'expansion de Londres à partir du XVIIe siècle, la demande de logements explose et les aristocrates décident de louer leurs terres pour une période déterminée, généralement 99 ans, à charge pour les occupants d'y construire des bâtiments et de leur restituer le tout au terme du contrat. Ils créent ainsi les premiers domaines familiaux, appelés estates. Aujourd'hui, cette situation perdure et s'est professionnalisée à la satisfaction générale. Peter Murray.
L'un des réels avantages de ces grands estates, c'est qu'ils se voient encore exister dans plusieurs centaines d'années. Du coup, ils construisent des bâtiments de très bonne qualité. Et si vous regardez le centre de Londres, la plupart des améliorations dans les rues sont financées par ces grands propriétaires privés ou par la couronne, ce que les autorités publiques ont, elles, beaucoup de mal à faire.
And that provides a quality of environment which is very difficult for the public sector to deliver.
Ces grands propriétaires s'emploient aussi à attirer dans leur quartier une population spécifique, de préférence aisée. La famille Howard de Walden a ainsi transformé l'image de Marylebone High Street, mais avec à la clé une augmentation du prix de l'immobilier qui pèse sur les classes moyennes. Le professeur Tony Travers de la London School of Economics.
Comme dans toutes les villes, il y a de très riches propriétaires et des très pauvres qui vivent dans des logements sociaux. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de logements sociaux dans le centre de Londres que dans bien d'autres capitales. Mais c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes des classes moyennes, d'acheter dans Londres, plus que ça ne l'était pour leurs parents.
Ce phénomène est amplifié par l'arrivée de nouveaux acteurs, sociétés ou riches particuliers, Qataris, Chinois ou Russes, qui construisent de nouveaux complexes ou développent leur patrimoine immobilier. Mais beaucoup de Londoniens voient d'un œil de plus en plus suspicieux cet afflux de fonds étrangers, à la provenance parfois douteuse, investis temporairement dans un marché immobilier du coup surdopé. Et ce retour de bâton fait apparaître les vieux propriétaires aristocrates, attachés eux à régénérer à long terme et avec exigence leur quartier, comme les réels gardiens de l'intégrité de la capitale.
Voilà quelques notes du musicien britannique Purcell pour conclure ce reportage de Muriel Delcroix dans le centre de Londres. Ça conforte votre discours, ce reportage, Philippe Askenazy ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'exemple de Londres, je le prenais comme un petit peu central dans une partie de mon ouvrage. Il y a, à la fois, on voit bien, donc ces familles, en quelque sorte, ont, par chance, avaient des terres, ont aujourd'hui des rentes majeures et savent entretenir ces rentes. Ça, c'est le point important. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est pour rendre Londres beau, c'est positif pour Londres, etc. Certainement. Mais leur problématique essentielle, c'est la rentabilité et de, en quelque sorte, réabsorber une partie des richesses créées par la nouvelle économie, parce que par le fait même qu'ils louent à des très hauts niveaux, eh bien, les revenus des salariés de la City ou des nouvelles start-up, eh bien, elles passent sur ces purs rendements fonciers. L'autre point qui est important, c'est celui où on a une forme de cohabitation entre une population très riche et puis des populations qui, elles, sont dans des logements sociaux. Parce que il faut aussi prendre conscience, et ça, je crois que on l'oublie totalement, que nos sociétés fonctionnent parce que il y a un back-office d'une masse du monde du travail qui assure le fonctionnement de nos économies. Et c'est ce back-office qui fait partie donc de ces travailleurs que l'on a affaiblis, qui sont pourtant centraux et que on méprise d'une certaine manière, à la fois en disant ben, « vous n'avez pas droit à un logement dans le centre de Londres, vous allez être mis en périphérie », que l'on méprise à travers des bas revenus et à travers un discours qui est que ces personnes, leurs tâches sont peu performantes, ils sont peu productifs. Et je crois que c'est aussi un point lorsqu'il s'agit de réfléchir à la société telle qu'elle est aujourd'hui, au fonctionnement de nos économies, cette dimension de mépris est devenue essentielle et c'est celle-là qu'il faut casser et qui est, je pense, en partie au centre du malaise de la jeunesse que l'on connaît aujourd'hui.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons avec Philippe Askenazy de son livre « Tous rentiers » publié aux éditions Odile Jacob. Dans ces groupes de travailleurs que vous ciblez, est-ce qu'il y a malgré tout des gagnants et des perdants ?
Alors, si on prend le monde du travail dans son ensemble, on voit qu'il y a un certain nombre, alors c'est différent d'un pays à un autre, des groupes, pour la plupart que j'ai appelé de corporations, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, quel est leur outil ? Leur outil principal, c'est de montrer qu'ils sont justement critiques pour le fonctionnement de l'économie. Alors, le
critique,
terme critique,
vous voulez dire centraux.
Alors, voilà, alors c'est à la fois centraux,
indispensable.
Mais, les personnes qui arrivent à montrer qu'elles sont critiques, ce sont par exemple des corporations dans le domaine de la santé. Donc en France, vous avez par exemple les pharmaciens qui arrivent à bien s'organiser et à montrer aux politiques que si demain ils fermaient leurs officines, il y aurait une vague de protestation de la part de la population, que eux-mêmes sont bien vus par la population et donc pour, disons, tourner l'électorat, ils sont les plus à même pour le faire. Donc, ils arrivent à montrer qu'ils ont une criticité à la fois fonctionnelle et une criticité
mais
politique.
Mais vous montrez, par exemple, que ces pharmaciens français, ils arrivent à gagner beaucoup plus d'argent que les pharmaciens britanniques.
Oui, alors c'est ça qui a des tonnes. Donc, lorsqu'on commence à rentrer justement dans ce monde du travail, eh bien, on se rend compte que ces corporations-là disent tiennent un discours qui est « c'est justifié que je gagne autant et que j'ai donc ces types de revenus ». Moi, ce que je dis, c'est que eh bien, c'est uniquement parce qu'ils arrivent à montrer politiquement qu'ils sont essentiels ou bien dans certaines entreprises de manière purement fonctionnelle qu'ils gagnent non pas un revenu justifié, mais une rente. Et donc, ce qui est étonnant, donc c'est pour ça que je prends les cas des pharmaciens en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où on a finalement exactement le même métier et où on va se trouver avec des différences salariales absolument considérables. Donc, je parle des pharmaciens, je parle aussi des infirmières. On voit des différences de revenus absolus ou relatifs considérables d'un pays à un autre pour le même type de métier, mais tout simplement parce que ils ont pas la même organisation en quelque sorte professionnelle. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien on se rend compte que finalement, c'est l'art de s'organiser qui détermine son revenu et non pas une pseudo-productivité naturelle ou qualité naturelle de tel ou tel groupe professionnel ou de tel ou tel travailleur.
On a l'impression malgré tout que vous avez le monde anglo-saxon dans le collimateur parce que vous êtes très critique du fonctionnement des économies américaines et britanniques alors que ce sont deux économies qui, quoi qu'on en pense, fonctionnent plutôt bien en ce moment.
Alors ce sont les économies les plus inégalitaires. Alors je ne suis pas tant critique que cela sur le fait que ça soit, d'une certaine manière, les pires économies. Je ne pense pas qu'il y ait pire modèle. On est face à différents types de modèles. Je crois que dans les économies anglo-saxonnes, ce qu'elles n'arrivent plus à faire aujourd'hui, c'est leur promesse d'égalité des chances. C'est-à-dire que là où elles dysfonctionnent fondamentalement, on a parlé là donc de ces grandes familles aristocratiques que l'on retrouve à travers l'école. Lorsque vous regardez les enfants de Oxford et Cambridge, les deux grandes universités britanniques, c'est essentiellement des héritiers. C'est pas un enfant d'une banlieue déshéritée qui a réussi à progresser. Lorsque vous regardez ensuite même les médaillés aux Jeux Olympiques, vous avez une surreprésentation des milieux aisés en Grande-Bretagne. Et donc cette promesse-là n'est pas présente. Et en fait, aux États-Unis également, elle n'est pas présente. Et donc, c'est essentiellement votre héritage qui compte. Et dans le domaine de l'entreprise, on voit grossir de plus en plus des nouveaux monopoles. Et donc, il n'y a pas cette promesse. En fait, les économies libérales se sont en train de s'écrouler dans ces pays. Et puis, globalement, il y a ce problème de mépris du travail qui, je pense, tue le capitalisme du Japon en passant par l'Europe jusqu'aux États-Unis.
Vous disiez que les inégalités se développent. Il y en a même en Californie, qui est un des bastions de la nouvelle économie et du bien-vivre, nous dit-on. Le centre-ville de Los Angeles est en pleine renaissance. La reprise économique a transformé ces quartiers jadis à l'abandon en des lieux très prisés, des plus riches, des plus aisés. Ils y sortent le soir ou y habitent dans des lofts nouvellement construits. Mais au cœur de ces quartiers chics se trouve un espace occupé massivement par les SDF. Cet endroit s'appelle Skid Row et le contraste entre ces deux univers, ceux qui vivent bien et ceux qui vivent dans la rue, est saisissant. Comme l'atteste ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Tessa Groman à Los Angeles.
Le Petit Paris est le nouveau restaurant chic de Downtown LA. Fanny et David Roland ont investi 2 ans de leur temps et 3 millions de dollars pour restaurer cet ancien hôtel art déco de 1000 mètres carrés avec terrasse et mezzanine. Ils ont ouvert il y a 6 mois et les clients sont là.
Ça va, ouais, on est assez contents. On a eu un très bon départ. Avec des très belles soirées, des 350 couverts, 400 couverts, ça marche très bien.
Autour du Petit Paris, 4 autres restaurants ont ouvert récemment. Depuis une quinzaine d'années, ce quartier de Los Angeles est en pleine reconstruction et l'argent coule à flot. Brigham Yen est agent immobilier et spécialiste du quartier downtown de Los Angeles.
Depuis la redynamisation du centre-ville en 1999, 25 milliards de dollars ont été investis dans le quartier. Une étude récente montre que les studios les plus chers de tout le comté de Los Angeles se trouvent à Downtown Los Angeles. Ils sont plus chers même que ceux qui se trouvent à Santa Monica ou Beverly Hills.
Even more expensive than Santa Monica or Beverly Hills.
Mais ce monde de richesse s'arrête brutalement aux portes de Skid Row, le quartier des SDF, désormais coincé entre les restaurants du centre historique et les boutiques branchées du Art District. Ici, plus de 1700 personnes vivent dans la rue sur un espace d'environ 2 km². Les trottoirs sont envahis de tentes, de bâches, de matelas, de caddies et de sacs qui débordent. Les bâtiments sont vétustes et l'insalubrité se devine partout. Suzanne Partovi est médecin. Elle travaille auprès des SDF depuis 11 ans et constate que leur situation empire depuis un an.
J'ai vu une femme sans pantalon. Elle traînait son jean derrière elle avec juste une jambe à l'intérieur et elle s'était fait violer. Et elle a de vrais troubles psychiatriques. Je la vois souvent. Elle n'a pas d'affaires personnelles. Elle est sale. Elle marche pieds nus au milieu de la rue. Et il y en a plusieurs comme elle.
Jusqu'à récemment, Skid Row se trouvait bien loin des yeux des habitants de Los Angeles. Mais avec le développement du centre-ville, tout a changé. Mark Trotz est responsable d'un programme pour les SDF financé par le comté de Los Angeles.
Avec les gens qui habitent dans le centre historique de Art District, mon sentiment c'est que maintenant il y a cet espace au milieu qui s'appelle Skid Row et les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça peut arriver ici dans une ville américaine où il y a de l'argent ?»
Skid Row est l'endroit où se trouve concentré le plus grand nombre de SDF de tous les États-Unis. Le centre-ville de Los Angeles est peut-être le lieu où le contraste entre richesse et pauvreté est aussi le plus important de tout le pays.
Un reportage signé Tessa Groman à Los Angeles. Philippe Askenazy, on est au-delà là, du monde du travail.
Oui, tout à fait. Et je pense que ce n'est pas une particularité d'ailleurs américaine. Il faut avoir en tête qu'autour de la ville de Paris, il y a des bidonvilles qui sont présents. Et même lorsque vous allez dans un pays comme le Danemark, on présente toujours comme extrêmement égalitaire, dans une ville moyenne comme Aarhus, dès que vous vous éloignez un petit peu du centre-ville, vous vous rendez compte que là aussi, il y a des personnes qui vivent dans des caravanes. Donc c'est une situation globale. Et là, ce qu'il y a de marquant, c'est que, en fait, nos sociétés ne sont plus en capacité d'assurer une solidarité. Et derrière cela, il y a les limites, en quelque sorte, d'une stratégie qui cherchait à se baser sur construire la redistribution. D'une certaine manière, les inégalités primaires, c'est-à-dire n'avoir rien, avoir un peu ou avoir énormément, en quelque sorte, courent tellement rapidement que les politiques redistributives n'arrivent plus à suivre, et que l'on est en plus dans des États qui, ça s'est accentué depuis la crise de 2008, dans des États qui sont exsangues d'un point de vue financier et qui n'assurent plus nécessairement le suivi des plus fragiles, un pur suivi social.
Restons aux États-Unis. Dans la campagne électorale américaine, on voit les deux candidats démocrates aux primaires, Hillary Clinton et Bernie Sanders, débattre, par exemple, du niveau du salaire minimum qu'il faudrait. Madame Clinton, elle est plutôt favorable à $12. Bernie Sanders est à $15. Est-ce que ces $3 font toute la différence? Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions de salaire minimum?
Oui, alors le salaire minimum, il faut avoir en tête, donc aux États-Unis il y a des salaires minimums locaux par État, et puis le fédéral, donc là c'est une discussion autour du salaire minimum fédéral. Donc le $12 n'est pas choisi par hasard. Donc il y a l'inflation qui court, donc on parle de termes réels du salaire minimum. $12, ça ramènerait le salaire minimum américain à son niveau de 1965, qui était le plus haut niveau atteint historiquement. Donc il n'est pas choisi en quelque sorte par hasard. Et donc, d'ailleurs, ce que dit Hillary Clinton, c'est quand même l'Amérique peut s'offrir un salaire minimum au même niveau que celui des années 1960. Et Bernie Sanders cherche à le pousser plus haut. Et cette question du salaire minimum, on la retrouve en fait dans de nombreux pays, même en dehors des sociaux-démocrates. En Grande-Bretagne, au 1er avril, le salaire minimum va fortement augmenter pour les plus de 25 ans. Shinzo Abe, au Japon, a encore annoncé qu'il allait avoir un programme pluriannuel de hausse du salaire minimum, parce qu'il y a une forme de compréhension que cet écrasement du monde du travail, qui s'est traduit par des salaires stagnants, voire déclinants, pousse les économies dans une spirale déflationniste. C'est-à-dire que les entreprises, eh bien, elles peuvent baisser les prix parce qu'elles obtiennent des marges sur les travailleurs, et ces travailleurs-là ne peuvent plus consommer. Donc on a cette spirale dramatique pour les économies. Et de manière assez étonnante, ce que l'on voit aujourd'hui en Espagne, en France ou en Italie avec ces réformes du marché du travail, c'est ne pas avoir intégré cette dimension-là, puisque ça va avoir un effet de pression à la baisse sur les salaires. Mais ce que je développe dans mon ouvrage, c'est que ces questions de salaire minimum ne sont pas suffisantes. Il faut véritablement redonner au travail sa capacité de lui-même gagner des rentes, et directement vers ceux qui les détiennent. Et donc, justement, dans le cas de la Californie, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous remontez un petit peu au-dessus de Los Angeles et que vous allez dans la Silicon Valley, on voit de nouveaux types de mouvements qui sont des salariés, des sous-traitants des grandes entreprises de la Silicon Valley, que ça aille des Google jusqu'au Gemtech, donc dans les biotechnologies, ces sous-traitants-là qui font pression directement sur la grande entreprise multinationale pour obtenir des augmentations de salaire, des avantages sociaux, et ça fonctionne. Il y en a donc, par exemple, des chauffeurs de car, qui transportent les salariés des Google, Facebook ou autres, qui ont obtenu de spectaculaires hausses de salaire et de nouveaux avantages. On a
c'est un partage de la rente.
Alors là, c'est un partage de la rente par de nouvelles stratégies, des nouvelles stratégies syndicales qui sont justement qui cassent cette structure où on ne savait plus où est son employeur et finalement son petit patron qui est au-dessus de vous est tout aussi écrasé par le grand capital que vous. Là, c'est vous allez directement attaquer en haut. Et je pense que sur ce plan-là, les réseaux sociaux peuvent offrir de nouveaux outils pour des mouvements collectif de travail, et on peut aussi réfléchir à de nouveaux droits, et c'est la question du co-employeur par exemple émerge aux États-Unis, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un salarié d'un franchisé McDo, eh bien considérez que vous êtes à la fois employé donc de ce franchiseur qui est souvent un petit patron, mais aussi de la tête de pont McDo qui elle réalise les milliards et récupère des sommes considérables par le simple fait qu'elle est propriétaire de cette marque McDonald's et de la forme des hamburgers.
Eh bien, c'est sur ce propos un peu alimentaire et en vous remerciant d'être venu et de votre enthousiasme, Philippe Askenazy, que se termine cette émission. Je redonne le titre de votre livre, Tous rentiers, c'est publié aux éditions Odile Jacob. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Géopolitique.